Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Foot International version estivale. Un été particulier en ce début de mois d'août où le parfum de la Ligue des Champions revient à sticoter nos narines. Après 5 mois de vacances forcées, la plus belle des Coupes d'Europe ressort ses grandes oreilles. Ça repart en effet en cette fin de semaine avec les 8e de finale retour. 4 restes à disputer, nous nous pencherons sur ceux de samedi, de belles affiches. Bayern Munich, Chelsea et Barcelone, Naples. Une Ligue des Champions qui sent non pas la lavande, mais plutôt le roussi pour le Paris Saint-Germain. Mbappé est très incertain pour le quart de finale du 12 août contre l'Atalanta Bergame. Marco Verratti, lui, est presque forfait. Il vient de se blesser au mollet et une fois de plus, le Paris Saint-Germain va aborder une grande échéance européenne amoindrie. Malédiction ou malchance, telle est la question. Romelu Lukaku et l'Inter, une grande histoire d'amour commence ou se confirme. Lukaku n'en finit pas de marquer pour Milan, notamment hier lors de la qualification des interistes pour les quarts de finale de la Ligue Europa. C'était face à Getafe. Romelu Lukaku, tout tube de l'été ou futur incontournable de nos playlists footballistiques. Eh bien, nous demanderons leur avis à nos invités du jour que je vous présente, à commencer par la terreur de Paris-Plage, Dominique Sévra, notre confrère des
Parisiens. Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes très bien bronzé.
C'est gentil.
Vous êtes beau.
Merci.
Toujours le peigne dans le maillot, le playboy de Saint-Germain-des-Prés et de France Football, j'ai nommé Nabil Djellit.
Salut Eric, bonjour à tous.
Saint-Germain-en-Laye plutôt que Desprez.
Il doit traîner aussi. C'est vrai que j'allais dire Saint-Germain-en-Laye, mais,
non,
c'est bien aussi Saint-Germain-des-Prés.
Je suis comme un 4x4, moi je suis tout terre.
Voilà.
Je crains le pire.
Avec sa coupe Rasta, il nous viendrait plutôt des tropiques ou des paradis lointains, le et maître voilà. Nageur de SoFoot, chez Yves Guémour.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Bonsoir, Laurent Salerno aidé de Hugo Violas et Jérémy Boucher, le bateau de Radio Foot. Aujourd'hui, il fait chaud, alors allez, on se jette à l'eau.
Le terrain qui a découpé Kylian Mbappé.
Ça a craqué un peu quand même.
Cette nouvelle inquiétude, alors que l'entraîneur Thomas Tuchel annonçait que Kylian Mbappé serait au mieux remplaçant lors du quart face à Bergame, le PSG pourrait aussi devoir se passer de Marco Verratti.
Pur hasard ou effet de la magie, à vous de juger.
Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce du baraboutage? Qu'est-ce que ça peut être?
Parce qu'il a pris un coup, un grand coup, grand plaisir. Je ne sais pas exactement la diagnose.
Si ça, c'est pas la poisse.
Oui, nous sommes manqués.
Quel sort a-t-on donc jeté au Paris Saint-Germain? A-t-il été marabouté? Dès que le printemps européen arrive, l'été en l'occurrence cette année, les Parisiens tombent comme des mouches, foudroyés un à un, à la cuisse, aux pieds, aux adducteurs, à la cheville, tout y passe et l'infirmerie affiche souvent complet. Dernière victime en date, donc Marco Verratti, blessé cette semaine à l'entraînement dans un choc avec Eric Choupo-Moting. Ça a l'air vraiment sérieux, Dominique.
Oui, il est au bord du forfait, on va avoir une évolution sur sa situation samedi, quand le Paris Saint-Germain sera à Faro au Portugal en mini-stage. Là, on saura exactement s'il ne peut pas honorer de sa présence le quart de finale de la Ligue des Champions. Mais on va considérer, le moment où on se parle, que c'est fini pour lui. Donc, il va falloir faire sans un nouveau titulaire. Il y a déjà Aurélie Maria qui est suspendu.
Ouais. Et pour la demi-finale, là, est-ce que on sait
une
déjà
ce que
c'est une semaine après à peine.
Ça serait une bonne idée pour que Paris se qualifie, parce qu'il y a 6 jours entre le quart et la demi. 6 jours, ça permet de récupérer Aurélie Maria suspendu, Kylian Mbappé qui a mal à la cheville mais qui sera rétabli d'ici là, et Marco Verratti pourrait jouer effectivement le 18 août.
Voilà, il pourra jouer, donc ça veut dire que là, de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est jouable. Quoi. La blessure n'est pas si grave que ça.
Non, elle n'est pas si grave que ça, mais le problème, ça va être...
C'est le mollet, hein.
Oui, c'est le mollet, c'est une lésion de mollet. Il s'est arrêté donc mardi, on est jeudi. C'est pas le moment de s'arrêter en ce moment, il vaut mieux enchaîner les entraînements. Ça risque d'être un peu juste.
Alors, ça commence à faire beaucoup. Vous commenciez à faire la liste, la blessure à la cheville en Coupe de France de Kylian Mbappé. Et puis, pourquoi on parle de malédiction, de maraboutage? Parce qu'on se souvient de Neymar, ces 2 dernières années. Le pied, la cheville, il avait raté les 8e de finale à l'époque. Et puis, si on regarde un petit peu l'historique de chaque année, l'équipe l'a sorti d'ailleurs. Aujourd'hui, à chaque année, à chaque fois, avant les 8e ou les quarts, beaucoup de blessés, souvent des cadres, soit Ibrahimovic, il y a eu, soit Thiago Silva, soit Thiago Motta, Marco Verratti déjà. Bon, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que la maison PSG, Nabil, bon, on parle de, un peu pour plaisanter, de maraboutage. C'est quoi, Skoumoun, malchance, poisse, le chat noir?
Moi, je suis plutôt quelqu'un de rationnel. Je veux dire, déjà, bon, c'est pas le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a pas les monopoles des blessures en Europe, quoi. Eden Hazard, il est blessé du côté du Real. Chaque année, vous prenez aussi des grosses écuries européennes. Il leur manque un ou deux joueurs, mais c'est aussi le propre de ces grosses écuries, c'est d'avoir des moyens XXL, c'est d'avoir des effectifs avec de la densité. Et souvent, les remplaçants, sauf pour le cas de Neymar, effectivement, qui est lui un joueur à part comme Messi, même Ronaldo, Mbappé, voire Mbappé, ouais. Vous avez quasiment l'équivalent sur le banc ou pas loin. Donc des joueurs qui sont prêts à les remplacer. Ensuite, sur les blessures actuelles, je veux dire, on est quand même dans une situation quand même qui est très particulière. Est-ce que quelqu'un s'étonne de voir des joueurs blessés alors qu'ils n'ont pas joué pendant 3 mois? Ils reprennent en plus avec une certaine intensité. Les deux matchs face à Saint-Etienne et Lyon ont été épuisants.
Marco Verratti n'a pas joué la finale de la Coupe de France. Il a joué qu'à la fin.
Il y a eu de l'engagement. Si vous demandez à n'importe quel préparateur physique, s'il vous dit qu'après 3 mois d'arrêt et un temps de préparation et 3 matchs subitement avec un changement de braquet qui a des blessés à l'arrivée, bah, il sera pas surpris. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas de malédiction. Je veux dire, c'est malheureusement le contexte actuel qui est propice à des blessures. Après, bah, l'hygiène de vie des joueurs, de tout un chacun, moi je rentrerai pas dedans parce que je connais pas leur vie privée, donc on peut toujours extrapoler là-dessus. Mais des fois, il y a des blessures, c'est pas à cause de l'hygiène de vie. Voilà, alors parce que oui, Verratti, c'est vrai qu'il a une réputation de joueur qui sort, etc., etc., mais c'est pas le seul. Je veux dire, si des fois on colle des réputations à certains et tout le monde sort.
Ce qui interpelle quand même, Chérif, c'est année après année, bah, ça revient et chez les cadres. Donc, ça dénote pas quand même. Il y a un petit souci, quoi. Enfin, quelque part, je sais pas si c'est la préparation.
Il y a eu des problèmes avec l'encadrement sanitaire, enfin le staff médical par moment, par rapport à ce qu'on demandait aux joueurs du PSG, par rapport à la préparation qu'on faisait, la préparation estivale, puis aussi les stages à Doha. On s'est toujours posé ce genre de questions. Bon, il n'y a pas eu d'hécatombe non plus. J'ai pas souvenir qu'il y a eu des hécatombes. Comme disait Nabil, c'est la période qui est propice à peu près dans toute l'Europe. Il va y avoir des blessures.
Mais les années précédentes, il n'y avait pas eu de Covid,
sur les années précédentes, moi j'ai pas souvenir que l'absence de cadre à tel moment de la situation, enfin de la compétition, a manqué au PSG. À chaque fois que le PSG
s'était sorti, en 2012 ou 2013,
il a toujours manqué des joueurs fondamentaux, des joueurs importants. Ibrahimovic contre Chelsea au match retour, Thiago Motta qui était essentiel dans l'architecture.
Enfin, Mané et Salah, ils manquent à Liverpool, ça les empêche pas d'aller.
Oui, mais c'est une fois.
C'est Mané et
Salah. Il y a des absences, mais j'ai les souvenirs d'absence de Thiago Silva. C'est pas parce que Thiago Silva n'est pas là
qu'ils sont pas passés.
Même avec Neymar.
C'est une accumulation. Quand Thiago Silva est absent, c'est parce que aussi Verratti est suspendu et que Matuidi est sur une jambe et que Rabiot n'est pas là et que Pastore peut pas jouer parce qu'il a mal au mollet. En fait, c'est quand c'est pas un joueur star comme Neymar les deux dernières saisons.
Non, mais là, tu rentres dans le psychodrame.
Moi, je suis comme vous.
C'est des faits pour l'instant.
Moi, c'est pas la faute à pas de chance. Pour moi, il y a des raisons.
Nabil a commencé. C'est quoi, même basiquement les terrains d'entraînement du camp?
Justement, Nabil a commencé à exposer la période du confinement, qui n'a pas aidé, évidemment. Pour moi, il y a une variété de staff techniques ces dernières années. On a 3 ans de Laurent Blanc, un entraîneur français, 2 ans de Unai Emery, un entraîneur espagnol. On est à 2 ans de Tourelle, un entraîneur allemand. C'est trois fois des méthodes différentes. La France, l'Espagne et l'Allemagne, c'est des nouveaux staffs, c'est des nouveaux préparateurs physiques. Ça change. Vous avez 3 médecins en 3 ans. 3 staffs médicaux en 3 ans, le docteur Roland, le docteur Aumont, le docteur Baudot aujourd'hui. Pour moi, la faute à pas de chance, on ne se blesse pas par hasard. Il y a une accumulation, il y a une Ligue 1 qui est trop dure. Une Ligue 1 où ça joue beaucoup plus physique qu'en Espagne, qu'en Allemagne, que dans certains championnats. Le tac de Loïc Perrin, je ne vois pas ce genre de choses sur Messi dans le championnat espagnol. Je vois pas d'agression. Bon, si on exagère un peu, c'est une agression dans le cours du jeu.
C'est l'enfer exprès, quoi.
Je ne vois pas ça sur Messi, sur Griezmann, sur Suarez,
Ronaldo,
sur Eden Hazard, sur Karim Benzema. Il me semble. Donc je pense que voilà, il y a toute une série de facteurs qui font que le Paris Saint-Germain, parce que les pelouses du Camp des Loges sont extraordinaires, les joueurs
ont une hygiène de vie, ils sortent, mais pas plus que dans un autre club. Oui, oui. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que.
Il y a un dynamisme, il y a une dimension psychologique aujourd'hui.
Voilà, j'allais y venir quand même.
Je vous laisse y venir.
Non, enfin après, c'est peut-être pas la même question que vous abordez, mais on parle de cette fameuse barre psychologique du quart de finale que le PSG doit dépasser depuis l'arrivée de QSI en 2012. Est-ce qu'il n'y a pas un petit blocage mental qui fait qu'on somatise et on se blesse, quoi?
C'est nous qui l'entretenons, ce psychodrame.
Peut-être aussi, enfin, on avait Thiago Silva.
Non, d'abord, il y a toujours une loi sportive. On est au niveau où on ne l'est pas. Quand on ne dépasse pas les quarts de finale, c'est qu'on n'a pas le niveau. En plus, c'est ces années, c'était même pas les quarts de finale, c'était les huitièmes. Donc, on cherche des explications un peu irrationnelles via le psychodrame. Alors là, on accumule. Mais rappelez-vous.
Le psy n'est pas forcément lié au drame.
Rappelez-vous comment on a fait monter la sauce avant le match retour contre Dortmund cette saison.
Enfin, je sais pas qui vous dites on, mais enfin.
Entre les deux matchs, les shérifs, ils sont pas bons. Le match à Dortmund, ils sont pas bons, ils s'en sortent de 1. On peut pas dire que non plus vous avez donné des gages.
Avant le match retour, on avait accumulé aussi. On était allé interpréter la communication de Leonardo, les éventuelles blessures, un parc vide, le Covid. C'est bon, c'est la Coupe d'Europe. On a le niveau où on l'a pas. C'est tout. C'est.
Pression que se mettent les joueurs aussi.
Pression du club.
On a la pression, c'est qu'on a intériorisé le fait. Alors là, d'accord, je suis d'accord avec vous. C'est qu'on a intériorisé le fait qu'on n'est pas ultra compétitif. C'est tout.
Le PSG est arrivé, le Qatar est arrivé en 2011 en disant il faut gagner la Ligue des Champions entre 3 et 5 ans. Ils ont fixé une échéance complètement irrationnelle. Et ça n'existe pas dans l'histoire du football. Si on connaît un peu le football, et visiblement le Qatar ne le connaissait pas, le football, ce jeu, on peut pas te donner une échéance de Chelsea, par exemple, à Abramovich à mi-9 ans.
Il y en a qui arrivent pas.
Liverpool vient de remporter le titre au bout de 30 ans.
City arrive progressivement. Ils l'ont pas gagné, mais ils arrivent progressivement.
Pourrait d'ailleurs avoir une finale City Paris Saint-Germain. C'est possible sur le papier.
Bien sûr.
Donc, qui serait rigolo. Ce serait un peu la finale des clubs détenus par des pays.
C'est ce boulet, si on peut dire, que traînent les joueurs du PSG qui ont fait mal aux jambes.
Ils le disent en off. Ouais. On est écrasé par cette pression année après année. On nous parle que de ça. Nous, quand on gagne la Coupe de la Ligue, quand on fait le quadruplé, Trophée des Champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat, ça n'intéresse personne.
Mais j'y crois pas. On a intériorisé cette infériorisation. Moi, je regarde des équipes comme Ajax et Tottenham qui arrivent l'année dernière en demi-finale et Tottenham qui vont en finale.
Parce qu'on les attendait pas.
Non mais on est compétitif, on l'est pas, ils ont pas volé leur qualif, il y a pas de blessés, des absents, il y a eu des blessés, des absents, mais peu importe, ils ont
il y avait Harry Kane. Tracé. Harry Kane était blessé.
Harry Kane était blessé. Donc ils entretiennent leur infériorisation.
Là où il a raison,
parce qu'ils n'ont pas le niveau.
Comme disait Kylian Mbappé après Manchester United, un match où qu'ils ont gagné 2-0 au match aller, sans Cavani, sans Neymar, on entretient la peur, on vend de la peur. Il a raison, shérif. Harry Kane, il est pas là en demi-finale contre l'Ajax, qui sort de la boîte, un triplé d'un joueur qu'on connaît bien, nous, Lucas. Qui était pas très bon au Paris Saint-Germain,
qui a fait
un triplé un soir en demi-finale de Ligue des Champions, c'est complètement hallucinant. C'est ça le foot. Et au lieu de vendre de la peur, dire ah Kane il est pas là, comment on va faire, ah là là notre meilleur joueur est pas là, au lieu de dire ah Neymar est pas là, et alors il y a Drexler, il y a Mbappé, il y a Di Maria, il y a Verratti, il y en a d'autres des joueurs. Il y aura toujours 11 joueurs sur la pelouse, ils peuvent le faire. On parle de l'Atalanta de Bergame, ils rencontrent pas la semaine prochaine le Real Madrid, le Bayern Munich ou je sais pas qui. Un cadre européen, il rencontre une très bonne équipe, on est d'accord là-dessus, on n'insulte personne, mais on est là à psychoter, nous, le club, Thomas Tuchel, qui hier s'est lamenté entre deux réponses à la presse, il était là, ah là là, c'est terrible, ah grosse blessure, ah là là, comment on va faire.
Et d'ailleurs, Leonardo est intervenu, il entretient ça, c'était la même chose.
Oui, donc
avant
c'est
le
pas
match
que les médias, alors c'est même le club qui entretient cette fameuse négativité, quoi, un petit peu.
Mais ça veut dire qu'on n'a pas confiance en soi. Tottenham n'a pas de passé en Ligue des Champions, aucun passé en Ligue des Champions, ça arrive en finale, mais avec des blessés et des suspendus. Mais il se pose pas cette question quand on est compétitif, on se pose pas cette question.
Non mais c'est aussi le projet du PSG, c'est un projet de star. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, le fond de jeu, quoi. Je veux dire, peut-être sous Laurent Blanc, on avait un fond de jeu qui était vraiment inscrit, on savait ce qu'ils allaient faire. Sous Unai Emery, on a vu un peu, et puis ensuite son côté anxiogène également.
Faut pas oublier Ancelotti entre les deux. On oublie toujours Ancelotti.
Elle n'avait pas aidé. Moi, je, pour te dire. Et là, aujourd'hui, Tuchel, son jeu, il est basé sur je donne la balle à Neymar et Neymar lance en profondeur Mbappé. Donc c'est sûr que s'il perd L'Ajax, quand tu parles de l'Ajax, tu en enlèves un, t'en mettais un autre, tu voyais pas la différence. En revanche, t'en enlèves un, t'en mets un autre, tu vas voir la différence.
Mais si c'est Draxler qui joue, c'est pas pareil.
Voilà, bah oui,
mais Verratti, ça va manquer. Par contre, Verratti, c'est une perte. Oui.
Justement, voilà, qu'est-ce que ça va donner le 12 août contre Bergame? Parce qu'on rappelle que si Di Maria est suspendu, Mbappé sera sans doute pas titulaire.
C'est les ressorties de ballon qui va être très, très compliqué,
voilà.
Parce que vous avez au milieu de terrain soit Marquinhos qui va devoir monter de la défense centrale et qui n'est pas fait pour ce rôle-là. Vous avez Leandro Paredes qui joue certes sentinelle avec l'Argentine, mais qui n'a pas le jeu de Marco Verratti. Il n'a pas ce sens de la passe, ce sens de ressortir le ballon sous la pression. Et après il y a Ganagay. Ganagay, c'est plus quelqu'un qui va à la fois avoir du volume et se projeter, qui a une bonne frappe.
Ganagay, c'est un ratisseur. C'est pas lui qui va animer le jeu. Il peut se porter vers l'avant pour faire le surnom, mais c'est pas un meneur. Et c'est pas lui qui va remonter les ballons comme Verratti sait le faire. En jeu court et en jeu long, Verratti sait tout faire.
Ça Verratti, peut donner quoi, Nabil, contre l'Atalanta?
Ils peuvent évidemment passer ils ont les qualités et tout. Après, moi, leur collectif, je trouve qu'il laisse à désirer, mais en face, je suis désolé, il y a une vraie bonne équipe. C'est une équipe qu'on a vue cette saison en Italie performer face aux meilleures équipes italiennes. Je les ai vus face à la Juve, comme je pense tout le monde. Il y a deux partout, mais en fait, c'est un hold-up de la part de la Juve parce que ils leur ont mis une leçon de football. Il y a de l'intensité, il y a du rythme, il y a un plan de jeu. Il y a des joueurs interchangeables. Alors certes, ils ont perdu Ilicic, mais à l'Atalanta, le danger vient de partout. Je suis pas en train de vous faire l'Atalanta un monstre. Mais s'ils sont là, comme il a dit Chérif, c'est qu'ils le méritent et c'est pas par hasard.
Ouais, ils ont peut-être la mentalité.
Ils sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils ont le niveau. Donc en phase 2, ils ont une vraie bonne équipe. Alors ça sera au Paris Saint-Germain de faire ce qu'il
faut. L'inquiétude, c'est peut-être s'il y a des nouveaux pépins en cours de match. Là, au niveau du banc des remplaçants parisiens, il reste plus grand monde, non?
Là, il reste plus grand chose.
Ils ont perdu Cavani, Meunier, faut le rappeler.
Et voilà. Coissy, qui était quand même pas rien.
Et Tuchel l'a dit d'ailleurs, il a envoyé une petite pierre dans le jardin de Leonardo hier.
Mais pour moi, il entretient le mur des lamentations, quoi. C'est toujours en train de se plaindre.
Mais même Leonardo, qu'est-ce
il est venu un petit peu corriger ça, quoi. Alors est-ce qu'il l'a fait parce qu'il venait d'écouter Tuchel? Il a dit là le message est trop négatif, ou est-ce qu'il avait décidé de le faire?
Tu te rappelles avant le match retour contre Dortmund, là c'est vraiment
la négativité des médias.
C'est toute la France derrière le PSG. On est où là? C'est pour un club.
Oui, il réclamait ça, oui, effectivement.
Match retour de 8e de finale contre Dortmund. On va mobiliser la France entière.
Alors, pour illustrer un petit peu, on va dire, cette nervosité parisienne actuelle, ou alors qui date de quelques années maintenant, on va réécouter un petit échange qui a eu lieu la semaine dernière avec votre ami Thomas Tuchel.
Tout à fait, si je...
Vous avez joué 210 minutes en une semaine pour un but.
Et quoi?
Et bien, justement,
on a toujours la chance. Vous pouvez écrire. Pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche le négatif. Il y a 99 points positifs, mais oui, voilà, on cherche le centième. On va trouver des problèmes et des choses. Et voilà, il n'y a pas de problème.
Alors, c'était vendredi dernier après la victoire parisienne en Coupe de la Ligue. Au tir au but contre Lyon, un match sans but. Alors on vous repasse cet extrait, surtout par rapport à la colère de Tuchel. On ne va pas refaire le débat, enfin on en a parlé un petit peu, si le PSG joue bien ou pas. Enfin, on ne va pas répondre au fond de cette question, vous n'avez même pas eu le temps de poser, vous n'avez pas laissé finir. Est-ce que ce Thomas Tuchel-là, enfin, on le voit habituellement avec ce côté un peu colérique. On voit qu'il est facétieux, mais ce côté colérique, on le voit souvent.
Il y a une biographie qui est sortie en Allemagne de lui par deux journalistes qui l'ont suivi depuis Mayence, qui révèle un petit peu ce trait de caractère-là, si jamais on l'avait oublié. On l'avait d'ailleurs présenté à son arrivée, quand il a succédé à Unai Emery, comme un entraîneur volcanique capable de claquer la porte de Dortmund parce que les dirigeants lui ont fait jouer le lendemain de l'attentat contre Dortmund, contre le bus et la perte de Marc Bartra. Ils lui ont fait rejouer le huitième ou le quart, je sais plus, contre
le
Monaco.
Avec Monaco. Ouais.
Voilà, et je sais plus, c'était huitième ou quart. C'était un quart, je crois. Sur le huitième, c'était City. Et donc, il est capable de partir. Il s'est fâché avec Zorc, il s'est fâché avec Cantero Henrique au Paris Saint-Germain, notamment sur la venue de Leandro Paredes. Ça traînait trop, selon lui. Donc, c'est quelqu'un comme ça qui a des colères, qui a des humeurs. Après un match de 120 minutes où il a eu beaucoup de pression, on est en début de saison, il a remporté la finale de la Coupe de France 1-0, pourtant à 11 contre 10, Saint-Etienne était à 10. Ouais. Il a perdu Mbappé sur le match. Le deuxième match,
se passe pas terriblement. Ça finit à 0-0 tir au but. Je peux comprendre qu'il y a un petit peu de pression, qu'ils soient un petit peu en train de descendre, selon l'adrénaline le quitte, et qu'une question un peu anodine, mais un petit peu légèrement perfide sur le fait que Paris, avec son attaque Icardi, Di Maria, Neymar, une attaque qui doit faire 222, 50 et 75 millions d'euros, fasse 0 but contre Lyon, peut-être avoir un peu plus d'exigence que ce qu'on a vu. Je peux comprendre que ça l'énerve et qu'il réagisse. Voilà. Pour moi, c'est anecdotique.
Non, mais Eric,
c'est pas symptomatique un petit peu de justement cet état de nervosité.
Je crois que c'est généralisé. On l'a vu. Là, on va rentrer dans une période totalement irrationnelle sur la fin de la saison. Allez, sur les coupes d'Europe, ça va se dérouler très rapidement. Les états de forme, on les connaît pas. Il y a une nervosité, mais pareil, Zidane était sous pression en fin de saison, l'entraîneur du bas, ils sont tous sous pression. Sarri est sous pression, Conte est sous pression, ils sont tous sous pression, parce que c'est une fin de saison. Même Klopp, il a fallu qu'il soit défendu par le COP, sans mauvais jeu de mots. Voilà, c'est une fin de saison.
Excellent.
C'est une fin de saison irrationnelle, on connaît pas les états de forme, il va y avoir des blessures, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a une remise à niveau. Il va y avoir peut-être des grosses surprises. Et ça joue forcément sur les joueurs, sur les dirigeants, sur les entraîneurs. Moi, je les accable pas. Regardez, en Italie, ils ont joué je ne sais pas combien de matchs en très, très peu de temps. Moi, je vois des équipes usées, comme la Juve, et une nervosité, mais à tous les étages. Donc voilà, ça craque un peu en conférence de presse.
N'empêche, Chérif, que je sais pas, mais moi quand je vois Jürgen Klopp, parce que t'en parlais, je trouve qu'il a une manière d'aborder avec un peu plus de recul et d'humour les petites avaries, les petits problèmes qui
attention, ils sont fait éliminer de la Ligue des Champions, et puis comme ils avaient suffisamment d'avance.
Est-ce qu'il est devenu fou en conférence de presse? Est-ce que la presse
ça lui arrive c'est pas méchant.
Franchement, c'est
il est un peu plus âgé aussi.
Ouais, mais et puis surtout il a des titres.
Non, mais
il a des titres européens. Il a fait des finales de Ligue Europa et des finales de Ligue des Champions.
N'oublie pas ce qu'il...
Tourelle devait être son petit-fils.
À contrario.
On ne sait pas pour l'instant.
Ouais, mais à contrario. Rappelle-toi qu'il a dit qu'il ne ferait pas de vieux os dans ce métier. Et il avait dit, je ne sais plus, il avait fait encore 3, 5 ans et tout. Donc, d'accord, il reste calme, il reste zen en apparence. Mais au niveau de l'usure intérieure, le mec, il fait bien comprendre qu'il ne craque pas. Mais ça doit travailler, ça doit cogiter.
D'accord, mais c'est 2013, la finale de Dortmund, où il est entraîneur, non? On est sur un septennat.
On est sur
un septennat Klopp assez fantastique quand même. Il a fait combien de finales de Coupe d'Europe depuis 7 ans?
C'est un grand bonhomme.
C'est une machine. Il n'est pas usé par tout ça. Il est zen, le gars, il est zen.
Non, mais
il
a dit qu'il ferait pas de vieux os. Il ira pas jusqu'à 70 ans.
On parle pas de Klopp. Surtout, Hull, un dernier mot sur cette nervosité. Vous êtes.
C'est l'heure de vérité, excusez-moi. Parce que si ça se passe mal contre l'Atalanta, bon, pour moi, ça sera terminé. Et pour moi, ça sera le pire entraîneur de la séquence QSI au Paris Saint-Germain.
Le quadruplé de cette saison.
Il peut arriver de pire que d'avoir gagné 4-0 un match aller et de perdre 6-1 le retour.
Je suis pas d'accord. Je trouve que perdre contre Messi et le Barça, c'est moins dévalorisant que contre Manchester United, alors que t'avais tous les voyants au vert et c'était à domicile. Je trouve que c'est Manchester United. Après, on a le droit de pas être d'accord. On peut en débattre. Je trouve que c'est pire que la remontada. Sauf que les gens vont retenir évidemment ce match face à Barcelone qui a été épique, mais ils avaient toutes les cartes en main pour se qualifier tranquillement à domicile avec une équipe en plus de Manchester United qui était pour le coup aussi réduite. Déjà, il y a des blessés partout. C'est ma lecture. Pour moi, depuis Manchester United, il a dévissé.
Mais tout ce que tu viens de dire là, on peut l'appliquer à Barcelone. Tu dis ils avaient les cartes en main, ils avaient tout pour passer. Ça, je peux le dire. Quand t'as gagné 4-0, t'as toutes les cartes en main.
On va attendre le verdict de l'Atalanta.
Si c'est pour se faire sortir par Leipzig au tour suivant, ça m'intéresse pas.
Non, mais s'il se fait sortir là par l'Atalanta, même si, quand on les regarde, on a tous bien compris que c'était une très bonne équipe et que c'était un match piège, les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est « Attends, mais l'Atalanta, c'est pas la Juve, c'est pas Milan. Ouais. » Donc, ça va être encore, en termes d'image, ça va être encore terrible pour lui. Je le souhaite pas.
Nous, on n'est pas des footiques, on sait que l'Atalanta, c'est une super équipe.
Oui, mais Dominique, tu sais très bien comment ça va se passer. Les gens, ils vont se dire, l'autre jour, tu disais à juste titre, d'un côté, t'as le PSG, t'as Mbappé et Neymar, c'est deux parmi les 10 meilleurs joueurs de la planète. Il y a qui à l'Atalanta? Il y a 3 mois, dites-moi, pour le grand public, quel joueur de l'Atalanta était connu?
J'en trouve. Et quel joueur le PSG aimerait recruter de l'Atalanta? Aucun, a priori.
Voilà, donc, dans le rapport de force, aujourd'hui, dans la réalité des rapports de force, il n'a pas le droit de se faire éliminer par l'Atalanta. Si tu te fais sortir par Manchester City, par exemple, déjà, ça ne va pas être apprécié, mais bon, bah, on va comprendre, c'est deux mastodons. Mais là, non, tu ne peux pas.
Surtout que le tableau, entre guillemets, c'est annexe favorable. Entre guillemets.
Ouais, entre guillemets.
Le vainqueur de Leipzig et Atlético Madrid en demi-finale. Bon, ben voilà. Ben, en espérant que d'ici le 12 août et ce quart de finale de Ligue Champion, il y aura d'autres mauvaises nouvelles de la
chirurgie.
Voilà, on n'a pas mis trop de négativité, j'espère.
Ah, c'est à Thomas.
On n'a pas dit que on n'a pas trop dit que l'Atalanta
était mauvaise. On va demander à Leonardo et à Thomas Tuchel.
Appel au peuple.
Voilà. Rendez-vous donc le 12 août, hein, ça sera à Lisbonne, donc Paris Saint-Germain, Atalanta, Bergame. Et puis demain, bah voilà, la Ligue des Champions redémarre véritablement avec les deux premiers huitièmes de finale retour de cette Ligue des Champions. Hein, ça avait été interrompu à cause de la pandémie. Juventus, Turin, Lyon. Au programme avec Manchester City Real Madrid, donc ça sera au programme de Radio Foot International demain. Puis aujourd'hui, on va évoquer les deux matchs du samedi, Bayern Munich Chelsea, mais tout d'abord Barcelone Naples.
Zielinski verso il centro, riceve Mertens, Mertens il tiro.
Pase interior de Busi para Semedo, Griezmann, gol.
Griezmann! Quelle belle action collective! Le coup de Grisou dans le San Paolo!
Ah, l'ambiance était belle à l'aller au stade San Paolo. C'était le 25 février dernier, c'était le monde d'avant, car... Bah, ce samedi, là, qui arrive au Camp Nou, le Camp Nou, c'est 100 000 places, eh bien, ne grondera pas comme le Vésuve, loin de là. Il sera quasiment vide, huis clos, à cause du Covid-19. Alors, un partout avait été le score de cette première manche, huitième de finale aller. Griezmann avait répliqué à Dries Mertens. C'était donc il y a quasiment 5 mois et demi depuis la pandémie est passée par là et désorganisé les calendriers, ceux des championnats également. Ainsi, Naples a terminé le Calcio samedi dernier, tandis que le dernier match du Barça a eu lieu le 19 juillet. 7 jours de creux côté napolitain, 20 côté catalan. Est-ce que déjà cette donnée va être déterminante pour l'issue de ce match, chérif ?
Tout est déterminant. Les équipes qui ont repris tôt, plus tôt, les équipes qui ont repris plus tard... On le voit, de toute façon, même moi, sur tous les championnats, les fins de championnat que j'ai vus, enfin, qui ont été rejoués à partir de juin, juillet, je vois des équipes qui sont pas au taquet pendant 90 minutes. Ça va être vraiment le, à mon avis, le paramètre essentiel. Et sur ce que je vois, j'ai pas vu une équipe de Barcelone flamboyante, mais déjà physiquement, je veux dire, on sait très bien que Messi, il peine à avoir le rayonnement qu'il a habituellement, mais il n'y a pas que lui, je veux au niveau des milieux de terrain, donc ça rééquilibre les forces. J'ai pas vu non plus un Naples flamboyant. Ils finissent quoi, 7e, je crois, de Serie A.
Mieux sur la fin, quand
ouais.
Même.
Alors, le seul petit truc, c'est le phénomène, enfin, le facteur Gattuso. On sait que c'est comme ça qu'ils ont gagné la Coupe d'Italie, parce que c'est la
Niac.
Voilà, donc ils ont battu la Juve au tir au but. Donc, allez, peut-être un petit plus le facteur Gattuso. Mais bon, il y a quand même 1-1 à l'aller.
Ouais,
et au coup d'envoi, c'est le Barça qui est qualifié. Ouais.
Alors, le repos d'un côté, avec des vacances, même une semaine de repos pour les Catalans, pendant que les Napolitains...
Repos, en fait.
Oui, enfin, bon, ils ont pris des vacances. En tout cas, ils sont aérés l'esprit, et ça peut faire du bien en ce moment. Et d'un côté, donc, le rythme pour les Italiens.
Qui sont restés sous tension, les Italiens, comme l'Atalanta.
C'est-à-dire qui compte le plus, alors.
Logiquement, moi, je suis... Après, il faudrait demander à des préparateurs physiques. Bon, c'est vrai que régénérer un minimum, comme vous l'avez dit à juste titre, aussi couper peut-être un petit peu psychologiquement avec le football, ça peut faire du bien également.
Et parce ensuite, que quel drôle de saison quand même, hein. Bah, longue.
Non, mais de toute façon, on a une équation qui est inédite et qu'on ne maîtrise pas. Celui qui est capable ici de me dire que physiquement telle équipe va être meilleure que telle équipe, bah il est très fort. Parce que moi, j'en ai absolument aucune idée. J'entends tout et n'importe quoi. Ouais. J'entends la prépa, c'est bien de pas jouer des matchs amicaux, c'est bien de pas mettre l'intensité, c'est ceci, c'est cela. Mais on verra le jour J parce que. Et je vais vous dire un autre truc, c'est pas à l'échelle d'un collectif, c'est à l'échelle d'individus. Tous ne réagiront pas de la même manière et il peut au sein de la même équipe avoir des états de forme disparates. Ouais. Neymar, il vole là, il est sur un nuage là, vous avez vu physiquement, il a des cannes incroyables. Icardi, il avance pas. Voilà, c'est difficile de répondre à ces questions-là.
Oui, tout le monde n'a pas vécu le confinement de la même manière. Il y a beaucoup de joueurs, on le saura plus tard, qu'on fait des dépressions. On sait par exemple pour le Paris Saint-Germain que Henri Di Maria l'a très très mal vécu. Ouais. Il est le fantôme de lui-même depuis qu'il rejoue au foot. Voilà, il y a des joueurs qui ont été touchés aussi.
Les clubs du nord de l'Italie qui sont en Ligue des Champions.
Il y a des joueurs qui ont été, il y a des joueurs qui ont été touchés. Kylian Mbappé, il a perdu quelqu'un de très proche dans sa famille. Ça l'a évidemment meurtri, l'épisode du Covid. Donc il y a plein de joueurs comme ça. On ne sait pas tout, on ne sait pas exactement s'ils l'ont eu, pas eu, les cas de s'ils sont asymptomatiques, pas asymptomatiques, ça n'a pas été révélé, il y a le secret médical. Et chez certains joueurs, ça fatigue énormément, même s'ils sont en bonne santé. Donc il y a tellement de paramètres, comme l'a dit Nabil, c'est impossible de savoir. On est toujours plus intelligent après, donc on pourra dire...
Non mais oui, voilà.
On pourra dire, une fois qu'on aura le vainqueur, on pourra dire, ah bah c'est parce qu'il a joué tant de matchs, c'est parce qu'il s'est reposé, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Mais alors avant, on ne peut pas dire ce qui va se passer, c'est impossible. Déjà en foot, on ne peut jamais dire ce qui va se passer. Mais alors là, on est complètement perdu, on est dans le brouillard.
On peut même extrapoler pour le vrai début de la saison, fin août, début septembre. Vous allez voir, il y a des équipes qui vont voler, des équipes qui vont s'écrouler, mais dès le départ. Et ça va peut-être se rééquilibrer à l'hiver, mais moi je suis persuadé qu'en septembre, on va avoir des équipes qui volent et des équipes qui plongent.
Je vais vous faire une confidence, Didier Deschamps, il a certes pas beaucoup de joueurs de Ligue 1 concernés, mais ça l'arrange presque que la Ligue 1 n'ait pas joué pendant plusieurs mois, parce que lui, il pense à l'Euro 2021, donc l'Euro 2020 qui aura lieu en 2021, et il pense que la colonie française qui va prendre, les Mbappé, les Dubois, les joueurs qui jouent, Steve Mandanda, les joueurs qui jouent en Ligue 1, ils pensent qu'ils seront plus frais que les homologues italiens, allemands, espagnols.
C'est possible.
Donc vous voyez, c'est même peut-être à l'Euro 2021 qu'on aura la solution de savoir ce qu'il fallait faire et pas faire à l'été 2020.
Est-ce qu'on peut quand même se référer à ce qu'on a vu dernièrement de ces deux équipes du côté napolitain, récemment, et du côté Barcelone?
Pour moi, la reprise du Barça est ratée. Pour moi, la reprise du Barça. Moi, j'ai plus suivi le Barça. J'ai plus suivi le Barça que Naples. Le restart, pardon, du Barça, et pour moi, est raté. La séquence est pas bonne. Messi s'est fâché avec ses dirigeants, notamment sur la baisse de salaire de 70%, avec les propos de Bartomeu dans la presse. Voilà. Il y a une mauvaise ambiance au sein du Barça. Il y a un entraîneur, Quique Setién, qui ça ne passe pas, ça ne prend pas. Il y a la blessure de Griezmann qui est revenu là, qui est disponible, mais il s'est quand même blessé. Et puis on lui a annoncé quand même qu'il jouerait de moins en moins. C'est une recrue à 120 millions d'euros. Bon, pour moi, le Barça a perdu le titre, évidemment. Pour moi, ça va mal. Après,
mais pourtant dans les faits, enfin si on voit les dynamiques des deux dernières équipes récemment, c'est assez équivalent. Barça 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Naples 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc c'est quasiment kiff. Alors on sait que au Barça, ils ont fait plus ou moins la paix. Ils ont parlé entre Messi, Quique Setién et les joueurs. Ils se sont dit, l'objectif, on met de côté nos chamailleries et on fait tout pour gagner la Ligue des Champions. Ça peut fonctionner, ça, quand même? Une union sacrée ou une forme d'union sacrée?
L'objectif, c'était déjà la Liga. Ils ont patiné. En plus, ils pouvaient plus avancer. C'est plus eux qui l'ont perdu que le Real qui l'a gagné. Même si le Real finit fort. Mais, moi, je confirme ce que tu dis, Dominique. Moi, je vois une équipe déjà qui est bloquée dans le jeu, qui est complètement stérile, qui n'arrive pas à trouver des solutions. Donc, il y a un bon coup à jouer pour le Napoli. Mais qu'est-ce que vaut ce Napoli? Une fois de plus, comme disait Nabil, ils finissent plutôt pas mal à la fin de championnat, mais plus.
Il y a quand même des signes intéressants, même si l'avenir de certains joueurs est incertain du côté du Napoli, comme Kalidou Koulibaly. Mais ils ont prolongé Insigne. C'est pas anodin. C'est vrai que Gattuso a quand même remis de l'ordre dans cette équipe. L'état d'esprit a changé sur la deuxième partie de saison. Il y a quand même un vrai plan de jeu. C'est une équipe qui il y aura match.
Insigne sera absent samedi.
Qui ça?
Insigne.
Ah bah ça c'est pas une bonne nouvelle. Non. Parce que c'est quand même un sacré joueur.
Ils sont quand même loin derrière les cadres.
Si c'est le Barça qu'on a connu lors de la dernière décade, on vous dit qu'il y a pas match.
Enfin, ouais.
Il y aura un match, mais le Barça est tellement moyen cette saison.
Ce qu'on a vu là.
Est tellement en difficulté, une expression collective qui est décevante, un milieu de terrain inopérant, en manque de complémentarité. On parlait tout à l'heure du Paris Saint-Germain, donne le ballon à Neymar et débrouille-toi.
Il y a le huis clos aussi. Hein.
C'est Messi ou rien en fait.
Ça fait longtemps que ces gens-là jouent à huis clos.
Même Ter Stegen n'arrive plus à être aussi décisif qu'il l'a été.
Il y a match.
Il y a un match.
Voilà, Duclos change le décor d'un match.
Moi, justement, on va parler davantage encore, mais on va rappeler quand même un petit peu la formule, un petit peu de tout ça, parce que c'est inédit. Hein. Les qualifiés de ces huitièmes de finale qui se disputent vendredi et samedi iront disputer le final 8, on va dire la française, à Lisbonne, donc avec quart, demi, évidemment, finale sur un seul match. Donc le chemin vers la coupe aux grandes oreilles est beaucoup plus court que d'habitude. Et ça, c'est pas forcément un avantage pour les grosses écuries. C'est en tout cas l'avis du Néerlandais du Barça, Frankie de Jong.
Il faut gagner seulement 4 matchs pour remporter la Ligue des Champions. On peut voir les choses comme ça. Je pense que c'est une grande opportunité pour toutes les équipes. Mais il me semble qu'il y a une difficulté supplémentaire pour nous. Parce que jouer un match unique rend les choses plus faciles pour les plus petites équipes qui peuvent créer la surprise. Bref, à mon avis, finalement, cette formule avantage surtout les plus petites équipes.
Ça peut nous faire des matchs très spectaculaires.
Ouais, alors, je trouve que cette règle-là, si Barcelone en colle 3 à Naples, on va voir si la formule avantage les.
En tout cas, il n'y a plus de calcul.
Non, replongeons-nous en février-mars. S'il y avait eu le match retour Barça-Naples, Barça passait. Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table. 1-1 à l'aller, le Barça.
Avait bien joué. Hein.
Ouais, je trouve que le Naples était
c'était un bon match. Ou alors.
Dortmund Paris.
On aura des surprises dans ce.
Lyon-Juventus, a priori, le match en février-mars, la Juventus était favorite contre Lyon, a priori. Là, les choses se rééquilibrent. La tendance, elle est moins forte.
On est à l'abri de rien. Ça peut être la Ligue des Champions, des surprises. Après, la Talenta qui sort le PSG, Lyon qui sort la Juve, ouais. Naples qui sort le Barça. Alors, franchement, ce serait des surprises, mais est-ce qu'on serait. Ce serait un étonnement incroyable.
Non, parce qu'on sort d'une édition de la Ligue des Champions l'année dernière qui était folle.
Voilà. Moi,
qui était folle. Avec l'Ajax, avec Tottenham, notamment, que Sheriff citait. On a vécu une année renversante. On a vécu un Manchester City, Tottenham, avec la VAR à la dernière minute, on a vécu Liverpool, Barcelone, une remontada de Liverpool. Donc on peut pas dire aujourd'hui ça va avantager ceci ou cela.
T'as des équipes qui ont certaines certitudes. Bayern.
Voilà. Quelle transition exceptionnelle, puisque
c'est une passe d'est.
J'aime bien.
Passe over d'est.
J'étais lancé en profondeur, il m'a vu. Le vainqueur de Barça-Naples rencontrera le vainqueur du duel entre le Bayern Munich et Chelsea. Le match donc samedi à Munich, mais là on a quand même l'impression qu'il y a un petit peu moins de suspense au vu du résultat du match aller.
Here's Lewandowski who puts it absolutely on a plate.
Pour Lewandowski. Direction de classe.
Gnabry's in again and he's placed it to perfection.
Ça va trop vite pour Chelsea.
Lewandowski to tap it in. It's 3-0.
Oh, le Bayern en démonstration ici à Chelsea. Le Bayern presque déjà qualifié pour les quarts de finale.
La danse bavaroise au mois de février. 3-0 donc pour le Bayern. À Londres, les Bavarois qui ont été sacrés champions d'Allemagne au sortir de la Bundesliga, c'était fin juin.
Quelle équipe !
Depuis, ils n'ont disputé que 2 matchs. Hein. Finale de la Coupe d'Allemagne remportée début juillet contre Leverkusen et puis un amical contre Marseille la semaine dernière. Alors, un petit peu même question, mais ça a pu couper leur dynamique ou...
Non, mais c'est super ça. Ils ont un match où ils sont déjà quasiment qualifiés. Ça va continuer leur préparation. Parce qu'à Chelsea, ils ont collé 3-0 à l'aller, on est d'accord ?
Oui, 3-0.
Ouais, ils vont monter en puissance grâce à ce match-là.
Ils sont arrêtés quand, vous avez dit, Eric ?
Le dernier match officiel de la Coupe d'Allemagne, début juillet. C'est le 4, je crois.
C'est un match pour se remettre en jambe,
Mais en même temps, Dominique vient de mentionner tout ce qui s'est passé l'an dernier en Ligue des Champions, les renversements de situation. On avait quand même vu aussi, je ne sais pas si c'était l'année d'avant, le Barça éliminé par la Roma, qui avait pris 4-0 après un 3-0 à l'aller. Donc ça ne peut pas se reproduire, là.
S'il s'écroule, moi, je vois pas le Bayern s'écrouler, à moins qu'il s'écroule physiquement.
C'est impossible.
C'est impossible.
Non, mais vous les avez vus contre Marseille en amical.
On dit pas impossible, Nabil.
Il y a des gens qui nous écoutent. Je suis sûr de moi, là. Par contre, vous pouvez m'enregistrer. Là, je suis tranquille, je suis zen. Vous les avez vus contre Marseille en amical?
C'est un peu baladé.
Mais ils ont, les autres sont pas dé- Marseille, ils n'ont pas dépassé le milieu de terrain.
Non, mais attends, c'est de l'omni. Ça en dit peut-être plus sur Marseille que sur le Bayern.
Non, hein
non mais oui, mais quand même, je veux dire, tu sens le collectif, tu sens
après, Marseille, il n'y a pas repris.
Physiquement, le pressing, ils étaient présents. Non, mais
Chelsea sort de son championnat.
Ouais.
Et a joué son dernier match dimanche. Bon, ils l'ont perdu la finale de la Cup.
Moi, je veux bien être enregistré aussi. Je dis que c'est pas impossible parce que voilà.
Tu penses que Chelsea peut le faire
au bout de 25 minutes pour Chelsea puis voilà quoi. C'est la vie, ça. Hein, c'est le foot.
Après, il y a la donnée.
Comme dirait Thomas Tuchel, c'est le foot.
Ouais, voilà, tout est possible.
Là, t'as du panache là.
Alors tu vois, vous voyez, en février, mars, la question ne se posait pas pour moi. Le Bayern passait là avec cette interruption et ce renou, enfin ce
restart.
Hein
restart.
Oh, c'est plus qu'un restart.
Donc,
Attendez,
on est en train de faire un débat là, où on est en train de nous expliquer que Chelsea va renverser la vapeur.
Non, pose les questions. Par exemple, le huis clos.
Là, c'est extraordinaire.
Une donnée quand même nouvelle, voilà. C'est qu'on est à huis clos, il n'y a pas de public, donc est-ce qu'il n'y a même plus l'avantage du terrain, ça?
Et
donc,
je ne sais pas si ça joue, ça.
Justement, je pose la question.
Bah, la preuve qu'il n'y a plus l'avantage du terrain,
favoriser un peu Chelsea.
L'UEFA, pour finir la compétition, ferait un tournoi sur une seule ville, Lisbonne en l'occurrence, au Portugal, et en Allemagne pour la Ligue Europa. Donc là, on est fini sur le terrain des clubs qui n'ont pas pu jouer le match retour des huitièmes de finale. Là, on parle des. Mais après, ça va finir sur un seul pays. Donc, c'est bien qu'il n'y a plus d'avantage du terrain, en fait.
Oui,
c'est
oui. Là,
on est. Encore une fois, tous nos repères sont perdus. Oui, voilà. Nos repères athlétiques, nos repères techniques. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, Barcelone.
Psychologique.
Il y a Messi. Mais est-ce que Messi, il est encore dans la. Il n'y a pas de ballon d'or cette année. Je ne dis pas que c'est ça qui le motive. Ce qui le motive, c'est jouer au foot.
Attends un peu.
Attends un peu de.
Si le Barça gagne la Ligue des Champions.
Ouais. Oui,
il finit quoi, troisième meilleur buteur en Europe, c'est pas mal.
Mais voilà, mais bien sûr, mais est-ce que le confinement, le déconfinement nous ont changé Messi? Je ne sais pas en fait.
Oui, non, je suis d'accord.
On est perdu en fait.
Ouais. On va peut-être avoir l'équipe surprise qui va aller bien au bout, qui va être pris par le dynamique, qui va se révéler.
C'est la chance. Non, je plaisante. Celui, le monsieur qui parlait juste avant, c'est l'entraîneur du Bayern.
Monsieur Flick.
Ça rebat les cartes et c'est à l'avantage des présumés présumés plus faibles, cette histoire, parce que on peut avoir très bien une année, on peut très bien être sur une année où c'est l'Atalanta qui peut gagner la Ligue des
ou Paris, les plus faibles.
Pardon.
Ou alors si c'est le plus faible, ça peut être Paris.
PSG, ils ont quand même des joueurs qui sont pas faibles. ou ça peut être Leipzig, ou j'en sais rien. On est à l'abri de rien.
Une équipe peut se révéler.
Tout peut arriver. Bon, Chelsea en tout cas s'est imposé deux fois à l'extérieur par 3 buts d'écart cette saison. Mais bon, c'est vrai que c'était à Wolverhampton 5-2 et à Southampton. Il y a du public quoi dans les tribunes à l'époque. Voilà. Et puis Olivier Giroud est en forme.
Ouais. Il marquera au moins un but. Ça fait il en faut deux encore.
Ouais.
Une trois.
Donc, c'est pas la qualité de l'adversaire, c'est pas
même. Après le déconfinement, les deux équipes qui nous ont le plus impressionné en Europe, c'est comme le Bayern et le Real. Donc le Bayern,
même si c'était pas du 100% physiquement, c'était pas du 90 minutes à haute intensité.
Oui, bien sûr, oui.
Non, mais
je parle de la pression globale.
Oui, non, je suis d'accord, c'est fini.
Donc bon. Alors, les huitièmes de finale, donc c'est deux de samedi pour un choc peut-être le vendredi 14 août entre potentiellement le Bayern contre le Barça ou Naples. Enfin bon, on verra bien. Tout peut arriver. En Ligue des Champions, c'est la leçon du jour. Alors on ferme la page Ligue des Champions, on va parler de l'autre Coupe d'Europe avec un homme qui, une nouvelle fois, s'est illustré. C'était hier, les huitièmes de finale.
Adesso Bastoni. È partito Lukaku, la palla per lui, attenzione a Lukaku.
C'est bien joué ça, avec son physique, il se fait de la place, la frappe du gol.
L'arrière de rigore, Lukaku.
Il n'a pas vu du match, il sort du bois, Lukaku.
But à la Lukaku, à Samir.
On n'arrête plus Romelu Lukaku en ouvrant la marquée contre Getafe. L'attaquant belge a permis à l'Inter de Milan de se hisser en quart de finale de la Ligue Europa. Eriksen a inscrit le deuxième but pour un succès 2-0. C'est pour Lukaku son 30e but, toute compétition confondue cette saison. Au classement, il est 5e ex-aequo derrière Lewandowski, Immobile, Ronaldo et Timo Werner. Ex-aequo avec Lionel Messi, Ryan Sterling et Kylian Mbappé. Première question, Nabil, est-ce qu'il est sous-coté, j'ai l'impression, Romelu Lukaku?
Oui. Et, en fait, c'est son côté un peu inesthétique qui a conduit à cette défiance un peu que certains ont eue. Il est assez clivant. En Belgique, par exemple, quand on en discute avec des supporters des Diables Rouges, tout le monde n'est pas toujours convaincu. Par exemple, Stéphane Poels, qui est très connu en Belgique, qui travaille pour des médias belges, est toujours détesté Lukaku. Non, mais il s'en cache pas, si vous voulez.
C'est vrai qu'il a un physique très particulier. Ouais, quoi. Enfin,
sauf qu'il a des statistiques qui sont absolument extraordinaires. Il est très jeune. c'est déjà quasiment...
Il a 27 ans.
Ouais. C'est déjà quasiment le meilleur buteur de la sélection belge, si je dis pas de bêtises. Je sais pas combien il est. Il déménage, il est puissant, il prend la profondeur, il sait tout faire. Là, il y a une rencontre avec Antonio Conte, et notamment un schéma en 3-5-2 où sa complémentarité avec Lautaro Martinez a été fantastique cette saison. Elle le sera peut-être moins la saison prochaine puisque Lautaro a de fortes chances d'aller au Barça. Mais Alexis Sanchez monte en puissance, donc ça pourrait être un joueur qui pourrait tourner autour de Lukaku. Aujourd'hui, pour moi, si on doit situer dans une échelle, il est dans les 10 meilleurs attaquants de la planète football, sans problème.
Romelu Lukaku, effectivement, c'est cette alliance de puissance et de rapidité.
Oui. Bon, après, moi, comme l'a dit Nabil, esthétiquement, je préfère Karim Benzema. Hein, donc, parce qu'on parle d'attaquant sous-côté, je trouve pas que son prix d'achat, qui est autour de 75 millions d'euros...
65 millions d'euros. Enfin, après, il y avait les bonus, 10 millions, je crois. C'est le transfert le plus cher de l'Inter de Milan. Voilà. Il est arrivé la saison dernière.
Je trouve pas que le prix indique qu'on est sur un joueur sous-côté, au contraire, je trouve que...
Est-ce que les gens, naturellement, quand on leur demande aujourd'hui, par exemple, on va dans la rue, quels sont les meilleurs numéro 9 au monde, est-ce que son nom va sortir? Tu vois, il va sortir Benzema, Lewandowski, Kane, je suis persuadé que son nom ne sortira pas.
Mbappé, Suarez...
Pour autant, il est au niveau, comme on a entendu au niveau des statistiques, il est même au-dessus de certains qu'on...
Moi, je préfère Cristiano Ronaldo, je préfère Dybala qui aujourd'hui joue devant, voilà, moi je le mets pas dans les 10, mais
c'est pas que du patinage artistique, c'est pas que notre technique.
Bien sûr, mais c'est pas parce que je le mets pas dans les 10 que c'est un mauvais joueur, déjà. Et ensuite, effectivement, il n'incarne pas forcément le football que je préfère, le chatoyant, il y a un côté un peu véloce, déménageur.
Véloce ?
Oh, il est véloce.
Oui, il peut être rapide comme le but qu'il a marqué hier. Enfin, en tout cas.
Pas véloce.
Disons, il a une accélération, un pouvoir d'accélération.
Qu'est-ce qui te choque dans le mot véloce ?
Bah, déjà, sa coordination.
C'est pas la vitesse de Mbappé, quoi.
Elle n'est pas naturelle. Donc, il peut pas être véloce. Il peut être rapide, il peut armer très rapidement.
C'est pas un guépard.
Voilà,
c'est pas le guépard.
C'est plus un buffle qui démarre.
Oui,
c'est juste le terme.
Ouais, ça peut aller très vite. Hein,
voilà, exactement.
Mais mine de rien, enfin, ça fait 7-8 ans qu'il marque chaque saison entre 15 et 25 buts. Quoi. Donc c'est pas assez nouveau. Et là, je sais pas s'il arrive à la maturité, mais.
Alors voilà, c'est peut-être
il peut aller, quoi.
L'intérêt, il est. Moi, je suis pas un grand fan. Alors déjà, il n'y a pas que comment le côté inesthétique, c'est quelqu'un qui est pas très bien coordonné. Il a qu'une surface de pied, c'est l'intérieur gauche. Pour tout le reste, c'est très moyen. Il a quasiment pas de droit et il a...
Heureusement qu'il est pas bon dans le reste parce que
on va écouter Antonio Conte qui dit qu'il a encore une grosse marge de progression.
Romelu est un joueur qui a une vraie marge de progression. Parce qu'il y a certains aspects du jeu où il peut et doit encore faire mieux. On parle d'un joueur atypique, très grand, très puissant, qui arrive malgré tout à être décisif en tant qu'avant-centre, mais aussi quand il trouve des espaces pour accélérer. Il peut être vraiment très rapide et son physique lui permet de convertir les occasions qu'il se procure. Mais comme pour n'importe quel autre joueur, c'est à lui de voir s'il veut encore s'améliorer ou non, s'il a envie d'aller encore plus haut.
C'est Antonio Conte qui l'a fait venir à l'Inter, ménage pas, quoi. Hein.
Oui, voilà, on est d'accord. Moi, j'y arrivais. Moi, j'ai toujours un problème avec Romelu Lukaku. Il y avait aussi son problème d'efficacité devant le but. C'était le spécialiste des actions ratées, enfin, sur le gardien à côté. Il a beaucoup diminué son ratio. Il marque beaucoup plus. Il a gagné en efficacité. Il s'entend très bien avec notre Lautaro. Là, la marge de progression, elle est là. Il marque beaucoup plus de buts. Et là, il est en train de... Moi, il m'a positivement impressionné cette saison. Il n'avait pas cette efficacité il n'avait pas cette efficacité d'avant. Et par exemple, il y a encore un autre domaine où il doit progresser, c'est les passes décisives. Moi, j'ai vu les statistiques. Il n'a que 2 passes décisives cette saison. Point. Après, il pèse.
Ouais, c'est un finisseur, quoi.
Voilà. Non, mais il a marqué beaucoup de buts, il pèse beaucoup. Il est aussi, alors, on parle de la passe décisive. Moi, j'aime bien aussi quand on parle de l'avant-dernière passe décisive. Et là, il est bon, je suis d'accord. Il participe vraiment au jeu, des fois, en partant de plus bas. C'est peut-être la saison où Lukaku est en train de basculer. Mais moi, j'attends encore de voir. Je suis encore un peu sur ma fin.
Bon, on cherche un attaquant numéro 9 au PSG, non? Pour remplacer Cavani?
Oui, on cherche quelqu'un qui s'assirait sur le banc sans dire un mot. Je pense pas que ça corresponde au profil de Romelu.
Alors, une petite précision, hein,
10 secondes.
Ouais. 83 sélections, 49 buts, c'est pas mal.
Ouais. Bah oui, c'est vous le verriez aller où, Nabil, futur
grand club? Je pense qu'il... Oui, mais attendez, l'Inter de Milan, ils sont en train de s'outiller pour, être, pour aller tout en haut.
C'est vrai que c'est l'an prochain, en Ligue des Champions, avec Alexis Sanchez qui vient de signer.
Hakimi.
Voilà, ça peut... Non, ça
franchement,
peut,
il va rester.
Ils sont bien, l'Inter.
Bon, ben voilà. Bon, on guettera le parcours de l'Inter de Milan. Déjà en Ligue Europa, hein, cette saison, c'est en quart de finale. Et la saison prochaine en Ligue des Champions. Merci beaucoup.
Merci à vous, Eric. Vous êtes parfait.
Très belle chemise. Un grand plaisir. Merci à nos capitaines qui étaient au gouvernail.